Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Aujourd'hui, nous allons parler de Black Sabbath, qui est un groupe originaire de Birmingham, en Grande-Bretagne, qui est vu comme l'un des groupes fondateurs du heavy metal et il est souvent considéré par la presse spécialisée comme par le public comme le premier groupe de ce genre. La formation originelle de Black Sabbath est composée de musiciens âgés de 21-22 ans, qui s'appellent Anthony Tony Iommi à la guitare, un gaucher au toucher très particulier, John Michael Ozzy Osbourne au chant, qui fera plus tard des allers-retours entre son groupe et sa carrière solo, surnommé encore le Prince des Ténèbres, en référence aux frasques de sa vie privée et de ses prestations sur scène, toujours un peu délirantes. Ensuite, on trouve Terence Geezer Butler à la basse, auteur de beaucoup de paroles et chansons de Black Sabbath et adepte de littérature fantastique plutôt effrayante. Enfin, nous avons William Bill Ward à la batterie, véritable bûcheron du rythme implacable sur ses caisses et tomes. Tony Iommi est l'inventeur du riff lourd et lugubre, parfaitement en phase avec son style sombre, toujours habillé de noir. Le groupe doit beaucoup à son jeu de guitare développé, alors qu'il a deux doigts qui ont été sectionnés lors d'un accident du travail dans son précédent emploi d'ouvrier métallurgiste. Il se fit confectionner des sortes d'embouts pour faciliter le contact de ses doigts sur ses cordes, et c'est ce qui va donner ce son si particulier au riff de guitare de Black Sabbath. Les quatre fondateurs de Black Sabbath sont originaires d'Aston, donc un quartier défavorisé de Birmingham. Ils font leurs premières armes dans divers petits groupes, Tony Iommi et Bill Ward dans un groupe de blues rock appelé Mythology, et Terence Butler avec Ozzy Osbourne dans un autre groupe de blues rock, Rare Breed. À la fin de Mythology, en juillet 1968, Tony Iommi et Bill Ward fondent le groupe Polka Talk Blues Company, qui se rebaptise Earth en faisant appel à Butler et Ozzy qu'ils connaissent déjà. À partir de là, tout va très vite. Ils entrent en studio et la première chanson, qui donne d'ailleurs son nom à l'album puis finalement au groupe, s'appelle Black Sabbath. Elle est fondée presque entièrement sur un intervalle triton, comme on dit, joué sur une guitare avec un tempo très long. Il faut savoir, triton est au Moyen-Âge souvent associé au diable dans la musique occidentale, à cause de sa sonorité ressentie comme oppressante et effrayante. Et cette sonorité était connue d'ailleurs sous le nom de Diabolus in Musica, le diable dans la musique. La chanson Black Sabbath est l'un des premiers exemples de chansons heavy metal à faire usage de cet intervalle. Selon le groupe, la chanson a été inspirée par une expérience que leur bassiste, Geezer Butler, avait racontée à Ozzy Osbourne. Dès l'époque d'Earth, donc, était le nom précédent de Black Sabbath, en effet, le groupe prend une direction musicale plus sombre, quand Geezer commence la lecture d'œuvres de Denis Whitley traitant de magie noire. À l'époque, Geezer a recouvert les murs de son appartement de noir mat et a placé plusieurs crucifix inversés ainsi que des photos de Satan sur les murs. Il raconte donc au groupe la vision qu'il eut un jour d'une silhouette noire encapuchonnée au pied de son lit. S'inspirant de cette histoire, le groupe écrit une chanson intitulée « Black Sabbath » dont le titre est tiré d'un film de 1963 avec Boris Karloff, Les trois visages de la peur, Black Sabbath étant sa traduction américaine. Constatant le nombre de personnes attendant au dehors des cinémas, Ozzy Osbourne déclare qu'il était étrange de voir tellement de gens dépenser autant d'argent pour voir des films d'horreur. Cela leur donna l'idée de jouer de la musique plus sombre, plus effrayante, afin d'être dans une sorte de rébellion contre la musique heureuse répandue dans les années 60. D'après Steve Huey de AllMusic, Black Sabbath affectionne les notes de la gamme pentatonique du blues standard et développe un riff heavy metal, comme on l'a dit. Encore récemment, c'était l'une des chansons les plus jouées par le groupe sur scène. Écoutez donc cette intro de Black Sabbath, si caractéristique de l'ambiance chère au groupe. We'll be right back. C'était donc la chanson Black Sabbath, tirée de l'album Black Sabbath, interprétée par le groupe Black Sabbath sur Oxy Web Radio. Avec la chanson suivante, The Wizard, ou le magicien, la partie emblématique de la chanson n'est pas une guitare, ni une batterie, ni une basse, ou le chant, non, c'est l'harmonica. L'harmonica sur ce morceau fut d'ailleurs rajoutée plus tard et jouée par le chanteur Ozzy Osbourne. Et c'est ça qui rend instantanément immémorable l'un des meilleurs morceaux de Black Sabbath. Même si très vite, le riff de guitare s'arrête pour laisser la batterie arriver et surprendre. Les paroles des deux chansons suivantes, The Wizard d'abord et Beyond the Wall of Sleep que nous écouterons ensuite, sont d'inspiration fantastique. La première s'inspire du personnage de Gandalf du roman Le Seigneur des Anneaux de J.R. Tolkien. Et la seconde est une référence à la nouvelle Beyond the Wall of Sleep de l'écrivain américain H.P. Lovecraft. Selon les membres de Black Sabbath, The Wizard, ou le sorcier, peut concerner soit un trafiquant de drogue, soit aussi Gandalf du Seigneur des Anneaux. Ils ne sont pas d'accord en réalité, et apparemment sur l'origine de cette inspiration. Quoi qu'il en soit, peu importe, la véritable vedette reste la partie jouée à l'harmonica, inhabituelle chez Black Sabbath, mais qui ancre la chanson, qui est seulement rendue plus frappante par le fait qu'elle a été jouée par Ozzy Osbourne lui-même. Ajoutez à cela la batterie tumultueuse de Bill Ward et les riffs ouverts et aérés de Butler et Yomi, qui servent presque exclusivement à accentuer la voix et l'harmonica d'Ozzy. Et vous avez une des pistes les plus insolites et, disons-le, amusantes dans le catalogue de Black Sabbath, du moins si on veut. We'll be right back. C'était The Wizard par Black Sabbath sur Oxy Web Radio. Comme je l'ai dit précédemment, la chanson suivante, Behind the Wall of Sleep, derrière le mur du sommeil, est basée sur l'histoire courte du même nom de H.P. Lovecraft et pourrait être plus proche du rock basé sur le blues que le groupe jouait quand il était encore appelé Earth. Mais les paroles correspondent parfaitement à l'imagerie gothique qui a distingué Black Sabbath en tant que groupe prototypique de heavy metal. Cette chanson n'a peut-être pas aussi bien vieilli que la plupart des autres titres du premier album, mais les accords puissants et déformés de Tony Iommi semblent encore plus intimidants que ce qui se passe pour le métal ces derniers temps. C'est aussi l'occasion de parler du chant d'Ozzy Osbourne. Dès les débuts, ce chant est très caractéristique et a une touche singulière généralement reconnaissable entre toutes. Si beaucoup de chanteurs de heavy metal ont recours au chant crié, le chant d'Ozzy Osbourne, au contraire, préserve le chant clair. Cependant, il se caractérise aussi par un timbre souvent geignard, nasillard et monotone, qui renforce parfois l'expression de la folie et de la désolation qu'on peut ressentir à l'écoute des chansons. Osbourne tire souvent sur ses cordes vocales pour en sortir une sonorité aigre, un peu plus poussée que d'autres chanteurs plus conventionnels. Son chant se caractérise aussi parfois par l'emploi d'intonations dramatiques. Les performances vocales d'Ozzy Osbourne ne sont pas basées sur des techniques standards enseignées. Elles s'appuient sur une approche plus instinctive. Elles ne s'appuient pas non plus sur une haute virtuosité technique, mais se concentrent plus sur l'aspect expressif de la musique. Comme il le dit, je ne veux pas vous dire comment je chante, il n'y a pas de manuel. Ça sort comme ça, tout simplement. Je ne suis pas un de ces gars comme Rob Halford ou Glenn Hughes, qui peuvent faire toutes ces choses incroyables avec leur voix. Mais je suis content de ce que j'ai fait avec Black Sabbath parce que cela marchait vraiment. Et je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ma voix, mais je pense qu'elle est unique, n'est-ce pas ? C'était Behind the Wall of Sleep par Black Sabbath sur Oxy Web Radio. William Ruhlman, célèbre critique musical, déclare à propos de Black Sabbath: ce groupe a tellement eu d'influence dans le développement du heavy metal que l'on peut même dire d'eux qu'ils aidèrent à en définir le genre. Le groupe en mena le son blues rock de la fin des années 60, celui de Cream, Blue Cheer et autres, Vanilla Fudge dont on avait parlé récemment, à sa conclusion logique, ralentissant le tempo, accentuant la basse, soulignant les solos de guitare et incluant des performances vocales composées de paroles empreintes d'angoisse mentale et de fantasmes macabres. Voilà le style Black Sabbath. Si leurs prédécesseurs s'étaient clairement extraits d'une électrifiante tradition venant du blues, Black Sabbath amena cette tradition dans une nouvelle direction, aidant par ce fait à donner naissance à un style musical qui continue d'attirer des millions de fans des dizaines d'années plus tard. Je rajouterai que, n'oublions pas, cet album a bientôt 50 ans. Les spinners du chant, c'est-à-dire les espèces de roucoulades, et l'accordage en drop B, qui est un accord ouvert de guitare, donne une atmosphère sombre aux chansons, atmosphère accentuée encore par le fait que Tony Iommi utilise là encore l'intervalle du triton. Ainsi, les paroles de la chanson NIB évoquent Lucifer qui tombe amoureux d'une femme et devient une bonne personne. Contrairement à l'idée reçue, le titre n'est pas l'acronyme de Nativity in Black, mais selon les dires de Tony Iommi, une référence à la barbiche du batteur Bill Ward, qui était taillé à l'époque comme un pen nib, ce qui veut dire la pointe d'un stylo à pluie, comme pour illustrer le visage du diable. Nib est d'une rare occasion dans le catalogue enregistré de Black Sabbath, où la basse de Geezer Butler brille. En fait, la chanson commence avec un solo de Butler qui joue de sa basse à travers une pédale wah-wah, avant de s'installer dans le thème mélodique principal qu'il a également écrit. Voilà une autre chanson de Black Sabbath qui fut mal comprise. Cette chanson ne parle pas d'adorer le diable, c'est simplement que le diable tombe amoureux de ce qui le rend humain. Je dirais que c'est une chanson originale et significative de l'esprit Black Sabbath. Chantée d'une manière très différente, cette chanson donne la chair de poule. Thank you. c'était NIB par Black Sabbath sur Oxy Web Radio. Evil Woman est une reprise d'un standard du blues qui a été créé par un groupe de blues rock de Minneapolis aux États-Unis appelé The Crow, qui sont à l'origine donc de cette chanson et qui d'ailleurs sera le seul single sorti par Black Sabbath à partir de cet album Black Sabbath. Pour parler de la pochette de l'album, il y a une anecdote intéressante à raconter. La maison que l'on peut voir sur la couverture de l'album est le moulin à eau de Maple Durham, situé sur la Tamise, dans le comté de Berkshire. Or, ce qui a contribué au succès du groupe et du disque, c'est l'histoire que, lors de la prise de la photo, la femme étrange, sorte de Mona Lisa gothique apparente sur la pochette, en fait n'était pas là au moment de la prise de vue. Et elle n'a fait son apparition, apparemment, que lors du développement des photos. Et ça, évidemment, quand ça s'est su, ça a frappé les esprits. Une croix inversée figure à l'intérieur de la pochette double de l'édition du 33 tours. Elle contient un poème intitulé « Still falls the rain »,« Encore tombe la pluie », et les crédits de l'album. Dans ce poème, d'un auteur inconnu, il y est fait allusion à une jeune femme, aux yeux vides, qui croit ne pas être vue. Peut-être est-ce la femme de la pochette, justement. Ce premier album a été enregistré à Londres et est paru le 13 février 1970, au Royaume-Uni, et le 1er juin 1970, aux États-Unis. Il est considéré, je l'ai déjà dit, comme le premier album de heavy metal. Il est entré très rapidement au top 10 en Angleterre, après sa sortie, et s'y est maintenu pendant plusieurs mois. Aux États-Unis, l'album est devenu disque d'or dès le 4 juin 1971. En tout, c'est plus de 1 million d'exemplaires qui furent vendus en un an aux États-Unis, ce qui, pour un premier album du genre, est quand même un exploit remarquable. Enfin, lors de l'enregistrement de l'album, en novembre 69, au Regent Sound Studio de Londres, le groupe utilisa une méthode assez basique. En fait, les morceaux furent enregistrés sur scène en un temps record, 3 jours, et pour un budget de 600 livres sterling, ce qui ne représentait pas grand-chose. Tony Iommi, le guitariste, dit d'ailleurs à propos de cette session, nous sommes dit, on se donne 2 jours pour l'enregistrer et 1 jour pour le mixer. Et donc ils ont joué sur une scène, Ozzy chantait au même moment, simplement sa voix était mise sur une autre bande et ils se sont débrouillés comme ça pour, on va dire, mixer l'album. Et ils ont avoué qu'ils n'ont jamais fait plus d'un essai ou quoi que ce soit d'autre pour l'enregistrement de cet album, ce qui encore une fois est un exploit. En tout cas, pour Evil Woman, seul single tiré, voici le résultat.
Yeah.
c'était Evil Woman par Black Sabbath sur Roxy Web Radio. Le morceau suivant est une partie de la trilogie ambitieuse qui dure 14 minutes et que le groupe avait placé en une seule piste dans l'édition américaine de leur album. Dans l'édition européenne, la troisième partie, Warning, était une piste à part sur le disque. Elle dure 10 minutes, trop longue pour nous la passion ce soir. Nous n'écouterons donc que les deux premières parties qui se composent d'une introduction, Sleeping Village. Celle-ci est faite d'un chant couvrant un couplet de 4 vers et d'une guitare acoustique accompagnée d'un vibreur. Elle dure 1 minute et son texte est court, je vais vous le donner. Soleil rouge se levant dans le ciel, village endormi, les coqs pleurent, vent doux soufflant dans les arbres, l'esprit en paix, se sentant à l'aise. Tout à fait l'esprit dans lequel vécut à cette époque Ozzy Osbourne. Puis c'est la partie A Bit of Finger, allusion aux phalanges perdues du guitariste, et où on peut écouter le travail remarquable de Tony Iommi. Ce morceau n'est pas aussi connu que les plus grands morceaux de Black Sabbath, mais on y entend les sons qui ont influencé les groupes grunge tels que Soundgarden et Alice in Chains. Sleeping Village possède un son sombre et mélancolique. Il se transforme brusquement en A Bit of Finger, un instrumental fait d'une série de transitions de style un peu Jethro Tull, à travers divers accords de riffs mélodiques débouchant sur une paire de guitares en duel après 2 minutes de chanson, suite à une transition basse-batterie typique du groupe. La chanson a également été un élément important des concerts du début de Black Sabbath et parmi les parties les plus acclamées du groupe. Le morceau, comme les autres, a aussi été joué en direct lors de l'émission de l'influent John Peel à l'époque et son émission Top Gear, programme radio anglais joué en novembre 1969, 3 mois avant la sortie du premier album de Black Sabbath. Si vous aimez le jeu de Tony Iommi, la voix d'Ozzy Osbourne et la rythmique infernale de Geezer Butler et Bill Ward, je vous invite à écouter Warning, qui est fait que de ça pendant 10 minutes. Je me suis d'ailleurs servi de Warning pour composer le jingle qui accompagne les différents morceaux de l'album. c'était Sleeping Village et A Bit of Finger par Black Sabbath sur Roxy Web Radio. Voilà justement un extrait où est mis en valeur la rythmique dont étaient capables le bassiste et le batteur de Black Sabbath. La chanson suivante s'appelle Wicked World. C'est une des chansons les plus indémodables de Black Sabbath. Elle fut incluse dans la version américaine de l'album. Et Wicked World est témoignage des influences disparates qui ont contribué au son Black Sabbath. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe, au-delà de toutes les manifestations gothiques et des romans fantasy, le groupe exprime également un penchant pour le jazz. Et par exemple, Bill Ward se réfère particulièrement à des batteurs comme Buddy Rich et Gene Cooper. Deezer Butler, de son côté, lui cite Jack Bruce de Cream, qu'on connaît comme un jazzman averti. Il le cite donc comme premier bassiste britannique blues parmi ceux qui ont eu une influence importante pour lui. Et comme il disait, il était le premier instrumentiste à plier les cordes et à jouer de la basse comme un instrument totalement indépendant. Et donc, lors de la période pré-Sabbath, donc qui a précédé l'album, eh bien, on pouvait remarquer que les concerts mêlaient du blues, du jazz et du rock, ainsi que des reprises de titres de Jimi Hendrix ou de Cream. Wicked World donc commence comme un swing rapide, une sensation rythmique pas souvent associée au métal. Mais les effets de rock progressiste et de blues rock forgés avant eux par Cream, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, King Crimson et Jethro Tull sont là également complètement évidents. En plus, une technique d'arrangement exploitée par tous ces groupes fut l'accent sur les figures de guitare basse mises à l'unisson. Et Wicked World, de ce point de vue, est construit à partir d'une progression constante de puissants riffs joués en synchronisation par Tony Iommi et le bassiste Geezer Butler. Un témoignage donc du génie créatif de Tony Iommi qui correspond à la section d'interlude qui entre au bout de 2 minutes 15 avec des arpèges de cordes inhabituels doublés par une même piste mais celle-ci jouée en arrière du groupe. Et cette partie sera suivie par un solo de guitare de Tony Iommi qui, lui, ne sera pas accompagné par les autres instruments et qui, à l'époque, eh bien, avait pas mal impressionné. We'll be right back. c'était Wicked World par Black Sabbath sur Oxy Web Radio. Wicked World voulant dire monde cruel. L'album atteint alors la 8e place dans les charts britanniques où il resta classé pendant 42 semaines et 23e au Billboard 200 aux États-Unis. Et il fut vendu à plus d'un million d'exemplaires. Pourtant, alors que l'album était un succès commercial, indéniable, il fut férocement critiqué par les journalistes comme Lester Banks du magazine Rolling Stone, qui qualifia ainsi l'album « improvisation dissonante aux guitares effroyablement rapides qui envahissent tout le périmètre musical sans jamais pourtant être synchronisé avec le reste ». Et comble de l'ironie, le même album, qui n'a pas changé, fut plus tard classé au milieu justement du classement des 500 plus grands albums de tous les temps par ce même magazine Rolling Stone. Et le magazine Q Magazine, qui est un célèbre magazine de rock, inclut l'album dans son classement des meilleurs albums de métal de tous les temps, expliquant que l'album a prouvé son influence. Il reste un exemple pour les groupes de métal 3 décennies plus tard. La patte musicale du groupe sur celui-ci reste la plus effrayante de tous les morceaux de heavy metal. Et je crois que ça, c'est la bonne synthèse de ce qu'il faut penser de Black Sabbath. En effet, s'appuyant sur la nouveauté de leur son, lourd, et les pitreries sur scène d'Ozzy Osbourne, le groupe rencontre le succès dès ce premier album, Black Sabbath, au point d'en devenir un véritable mythe. Et cet album, qui est sorti en février 1970 chez Vertigo au Royaume-Uni et en Europe, puis en juin 1970 toujours chez Warner Bros. Records aux États-Unis ainsi qu'au Canada, eh bien cet album est nommé disque d'or aux États-Unis un an plus tard. Et à l'époque, ma foi, c'était quand même pas si fréquent pour un premier album. Dans la fin de l'année, l'album Paranoid suit et augmentera encore leur popularité en Amérique du Nord, mais aussi en Europe. Mais de cela, je vous en reparlerai plus tard. Au bilan, le style musical de Black Sabbath se caractérise par 4 instruments. Tous ont exactement leur place dans la musique. Guitare, basse, batterie, chant, à chaque fois des riffs lourds, une seule guitare, comme Deep Purple ou Led Zeppelin, un chant simple, sans chœur, des solides guitares, de la basse, de la batterie à profusion, qui donnera naissance aux bases du heavy metal avant que le nom n'existe. En effet, à l'époque, on parlait plutôt de hard rock. Et au même titre que l'album In Rock de Deep Purple, mais aussi pour certaines chansons de Led Zeppelin, comme Immigrant Song ou Wall Outta Love, eh bien, on peut dire que le hard rock a définitivement mis place son existence. Mais ça, ce sont d'autres histoires dont je vous parlerai plus tard. La semaine prochaine, on va aborder un de mes albums cultes, un live nommé L'Allman Brothers Band at Fillmore East. En tout cas, à la semaine prochaine et d'ici là, pour les blues.